Vous parlez couramment anglais, je vais quand même vous le traduire, vous le répéter. Si la religion est si grande, pourquoi il a abouti à tant de guerres? Pourquoi faut-il construire d'énormes églises, mais on ne parvient pas à nourrir les pauvres? Si la grâce est comme de l'eau, l'église devrait être un océan, car elle ne peut être un musée pour les bonnes gens, mais elle devrait être un hôpital pour ceux qui sont cassés. Je ne dois plus cacher mes échecs, je ne dois pas cacher mon péché, parce que mon salut ne dépend pas de moi, cela dépend de lui. Ma question est de savoir si Jésus était ici aujourd'hui, votre église le laisserait entrer? Comment Jésus et la religion sont des spectres, sont tout à fait opposés. L'un est l'œuvre de Dieu, l'autre est l'invention des hommes. L'un est le remède, l'autre est l'infection. Parce que la religion dit de faire, Jésus c'est done. Facile. Jésus dit je fais. La religion dit esclave, Jésus dit fils. Religion vous met dans les fers, Jésus vous libère. La religion vous rend aveugle, mais Jésus vous permet de voir. Je déteste la religion. En fait, elle me déplaît littéralement, parce que quand Jésus cria « Tout est accompli », je crois qu'il le pensait. Waouh ! Cette vidéo, elle a été vue 30 millions de fois sur YouTube. 33, j'ai vérifié tout à l'heure. 33 millions de fois. Elle est devenue complètement virale. Et ce garçon s'est marié, il a publié 8 bouquins à partir de ce qu'il faut le convaincre est véritablement extrêmement répandu. Ok, moi je crois en Dieu, mais l'Église, jamais. Ouais, la religion, vraiment, ça c'est périmé. Croire en Dieu, ça en revanche, ça m'intéresse. Alors, je voudrais réfléchir avec vous, une Église sans avenir, une espérance sans Église, Jésus sans religion, la foi sans Église. Un politique me disait récemment, avec un peu d'humour, si on allongeait tous les gens qui s'endorment à l'église le dimanche, ils seraient installés beaucoup plus confortablement. Provoquant. Nous pourrions ajouter, on aurait peut-être plus de fidèles si nos églises étaient plus agréables. Partout ailleurs, on cherche à séduire les spectateurs. Pourquoi est-ce que l'église est, en apparence, le dernier lieu à passer une musique démodée, dans le froid, on est mal assis, on n'a même pas la possibilité de rembourser. Bien sûr, je ne parle pas des super messes ici à Saint-Jacques-de-Compostelle, on m'a dit qu'elles étaient magnifiques, mais on sait bien, lorsque vous avez fait l'expérience à l'occasion, dans peut-être les villages où vous habitez, en voyant les visages crispés, soucieux, on se dit que c'est vraiment une épreuve que d'aller à la messe. Et est-ce que ce repas dominical justifie qu'on se barbe pendant une heure, parfois davantage? Pourquoi est-ce que l'Église existe? Pourquoi est-ce qu'au fond, c'est si compliqué? Ce serait tellement simple si, dans mon cœur, en priant le Seigneur, je pouvais à la fois obtenir le pardon des péchés, je pouvais communier à la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que ça existe, l'Église? Alors, je vais essayer de prendre de la hauteur avec vous. Je ne vais pas répondre en essayant de vous convaincre ou de vous séduire ce soir. Je vais vous faire confiance et vous donner des éléments théologiques. Je ne vais pas chercher à faire des effets rhétoriques. Je vous raconterai peut-être quelques petites anecdotes, mais je vais essayer de vous donner des éléments de vérité sur ce qu'est, non pas l'impression que vous avez de l'Église, mais ce qu'est l'Église profondément dans son mystère. Allons-y. L'Église, c'est d'abord un corps. Je voudrais entrer avec vous en commençant par l'Écriture et ensemble m'arrêter sur ces petits mots. Lorsque Jésus parle dans l'Évangile, lorsqu'on parle de l'Église, eh bien c'est ses premiers mots qui apparaissent. Elle est cité, elle est peuple. Elle est famille, elle est Jérusalem, elle est un corps, elle est une vigne, elle est un temple, elle est une maison, elle est une épouse. À aucun moment, Jésus parle d'institution. À aucun moment, Jésus parle de hiérarchie. Ce qui domine avant tout, c'est ceci. Ça, c'est une première définition un peu théorique, j'en aurais pas beaucoup comme ça. C'est une définition qu'a donnée un grand rassemblement dans les années 60, on continue de vivre. Le Père éternel a créé l'univers. Chacun d'entre nous, nous avons été créés. Vous avez été créés par Dieu. Votre corps est lié à l'univers, mais votre âme, elle est créée directement par Dieu. C'est pour un croyant. Et il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine. C'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est pas qu'on vive 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et après, réduit en poussière, plus jamais personne se souvient de nous. Au contraire, le but de Dieu, c'est que nous entrions dans sa communion, sa vie. Et c'est ça, la vie éternelle. Malheureusement, il y a eu un petit problème, un bug. Après leur chute en Adam, il ne les a pas abandonnés. Fracture. Ici, il dit exactement ce qui s'est passé. C'était certainement pas une histoire de pomme. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que, aujourd'hui, quand vous ouvrez votre page Google Actualité, lorsque vous écoutez la radio, vous voyez guerre, sang, vous voyez révolte, jalousie, vous voyez inquiétude, désespérance. Il y a quelque chose de fracturé dans le cœur de l'homme. Il y a quelque chose qui fait qu'alors même qu'on aspire au bonheur, dans notre cœur, nous n'y parvenons pas. Et c'est le mal qui l'emporte. Tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la Sainte Église qui a annoncé en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'ancienne alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers, nous sommes dans les derniers temps, s'est manifesté grâce à l'effusion de l'Esprit Saint au terme des siècles, se consommera dans la gloire. Définition, on l'oublie et on avance. Je voudrais faire un peu de philosophie politique, alors que Marc m'en excuse, parce que c'est plutôt sa partie. Si j'avais su que Marc était là, je lui aurais donné le micro et, pour nous faire quelques petits éléments de philosophie politique. Mais c'est important de découvrir quelques aspects de ce que c'est qu'une communauté. Et une communauté, c'est pas seulement une somme d'individus. Dans une communauté, il y a quelque chose de plus. Une communauté, pour les anciens, la nature, c'est un véritable ordre. Pour le moderne, au contraire, c'est l'individu qui est premier. Pour Aristote, on est naturellement politique. C'est dans notre nature. On est fait pour vivre en communauté. On est fait, dans notre nature, pour participer à quelque chose de plus grand que l'individu lui-même. Et si la communauté se fonde sur des individus, en réalité, elle s'épanouit. Lorsque la nature humaine, au-delà d'une vision utilitariste, va jusqu'au bout de ses accomplissements. Fondamentalement, la communauté, elle est fondée sur quelque chose du don. Fondamentalement, la communauté, elle ouvre à quelque chose qui transcende l'individu. Alors, il faut que je prenne des exemples que vous pouvez entendre ce soir. Peut-être votre classe. Votre classe, c'est pas seulement l'addition de chacune des photos que vous avez prises au début de l'année, ou bien la moyenne générale, qui est l'addition des différentes moyennes de chacun des élèves de la classe. Et comme vous êtes tous très doués, je suis sûr que cette moyenne est très élevée. Mais c'est bien davantage. Découvrir que, et je vais assez vite parce que je voudrais vraiment réfléchir sur l'Église, si, comme individu, mes signes sont inversés, individu est inférieur à communauté. L'individu, il est comme orienté vers la communauté. À un certain moment, le prof vous dit, ça, vous ne le ferez pas, parce qu'il y a le bien de la classe, et il y a un règlement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez faire. Ce serait rêver d'être dans un établissement où tout serait organisé pour que vous soyez parfaitement heureuse, chacun servant le moindre de vos désirs. Et ben non. Dans notre individualité, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est cette communauté que nous formons. Mais en même temps, la communauté elle-même, elle est dépassée par un bien qui lui est supérieur, et c'est la personne. Entre l'individu et la personne, il y a quelque chose, évidemment, d'une continuité, celle du sujet, mais il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin. Réussir à entrer dans l'Église, à faire corps dans l'Église, c'est découvrir qu'on n'est pas seulement des individus dont le nom est inscrit quelque part à l'évêché sur un registre de baptême, mais au contraire, que l'Église, elle m'ouvre à un mystère qui m'habite et qui est le mystère de ma personne. Je ne vais pas plus loin, je ne vais pas faire trop de philo, mais m'arrêter au moins là-dessus, pour vous faire comprendre quelque chose de la réalité de l'Église. Eh bien, le premier élément pour vous faire comprendre ce que c'est que l'Église, c'est cette communauté de bien. Le premier aspect d'une communauté, d'une classe, quelle qu'elle soit, d'un établissement, c'est un ensemble de ressources, de biens. Les profs, c'est une véritable richesse dans un établissement. C'est les bâtiments merveilleux, c'est le salle, tout ce qui est organisé pour que vous soyez bien comme élève. Pour les chrétiens, c'est la même chose. On a un certain nombre de biens matériels que nous mettons en commun. Il y a la tradition, l'écriture. L'écriture, vous savez ce que c'est ? Non ? C'est quoi l'écriture ? Ouais, c'est ça, l'écriture, c'est ça. Mais quoi d'autre pour les chrétiens ? Super, bravo. L'écriture, c'est la Bible. L'écriture avec un grand E, pour nous, c'est la mise par écrit de quelque chose qui a été donné dans le cœur d'auteurs inspirés et qui dit quelque chose de Dieu, qui dit quelque chose du mystère de Dieu et qui dit quelque chose de votre mystère. Dans la révélation, dans l'écriture, les paroles qui sont écrites, si vous les lisez non pas de façon extérieure, mais avec cette lumière qu'on appelle la foi, ces paroles, vous découvrez qu'elles deviennent pour vous. Par exemple, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu vous apporter la vie en abondance. L'écriture, c'est un vrai trésor pour les chrétiens. C'est pas seulement des idées, c'est pas seulement un truc archéologique, mais la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament. Si je le lis avec la foi qui me permet de décrypter ce qui est présent dans l'écriture, ça devient vivant. J'accompagne beaucoup de catéchumènes. Les catéchumènes, ce sont ceux qui se préparent au baptême. Certains, la plupart viennent de très très loin, familles non chrétiennes, parfois ils ont découvert Dieu comme enfant, mais la plupart comme jeune adulte. Et à un moment ou un autre, ils font l'expérience de cette parole qui est dans l'écriture et qui les met en chemin. Et ils comprennent que cette parole dans l'écriture, en réalité, elle est décodable, elle est interprétable, je peux la déchiffrer à partir du moment où je la lis avec cette lumière qui est la foi. J'ai pas terminé quand même. Il y a l'histoire des saints. Est-ce que vous connaissez des saints ? Les saintes ? Allez, réveillez-vous, wake up. Comment vous appelez votre prénom ? Ouais. Tacha, super. Alors, je ne sais pas qui est Saint Tacha. Donc ça, ça va être un peu compliqué pour moi. Comment vous appelez ? Pio ? Saint Pio, bah oui. On a un saint, on en a plusieurs même, qui s'appelle les Saint Pilis, par exemple, qui est une grande figure de sainteté. Chacun d'entre nous, nous avons un prénom. Et lorsque nous avons été baptisés, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on a prononcé votre prénom, et mystérieusement, il y a un lien qui s'établit entre quelqu'un qui est au ciel, qui devient notre famille, et nous ne portons le nom. Eh bien ça fait partie véritablement d'une richesse. L'art sacré, c'est quoi ? La musique, la peinture, la sculpture, la danse, une forme de danse sacrée. Bref, tout ce qui de l'invisible me permet de me disposer et découvrir tout ce qui est du visible et qui me permet de découvrir l'invisible. Et puis la puissance de la prière. Les biens de communion, c'est le deuxième type de richesse qu'il vous faut découvrir si vous voulez découvrir ce que c'est que l'Église. Ça, c'est le trésor des relations interpersonnelles. Dans votre classe, il n'y a pas qu'une éducation d'intelligence. Le propre d'une classe, c'est de vous faire grandir, de vous apprendre un certain nombre de règles sociales au travers des contraintes qui vous sont données, mais vous n'en apercevez pas. C'est un petit peu caché. Et pourtant, nous qui travaillons sur la pédagogie, nous le savons et nous l'organisons comme tel, et nous savons que dans la classe, il va se passer quelque chose d'assez magique. Vous sortez du sein de la famille et progressivement, vous allez apprendre à vivre avec des personnes que vous n'avez pas choisies. Vous allez fonder des amitiés. Il va y avoir des gens avec qui vous n'allez pas vous entendre. Progressivement, vous allez réussir à vivre de façon paisible ces oppositions qu'éventuellement vous pouvez avoir. Eh bien ça, c'est un autre niveau. C'est la même chose pour une communauté chrétienne. Une communauté chrétienne, c'est pas seulement un ensemble de biens matériels, de biens spirituels, mais c'est tous les liens qui s'établissent entre les chrétiens. On appelle ça la charité. Mais il y a aussi les dons spirituels. Chacun d'entre nous, nous sommes créés à l'image de Dieu pour les chrétiens. Chacun d'entre nous, nous avons un don absolument unique. Vous avez un don absolument unique. Personne n'aura plus jamais après vous. C'est ce qu'on appelle un don spirituel. Et ce don spirituel, ce charisme, c'est quelque chose qu'il fait pour les autres, aboutit à un service réciproque, à une entraide. Je me souviens, quand j'étais en prépa, j'ai fait une prépa qui s'appelle Sainte-Geneviève, dans la région parisienne, et on avait un modèle qui était très simple. On est concurrents au moment du concours, mais bon, toute l'année, on s'entraide les uns les autres. Et ça donnait une ambiance dans la classe absolument extraordinaire. 30 ans après, c'est revu là il y a quelques mois, sur les 70 que nous étions, on était 60. Les liens ont été tellement forts qu'il se passe véritablement quelque chose qui profite à l'ensemble. Mais c'est la même chose dans une classe. C'est deux modèles de classe. Moi, je travaille, je me fiche pas mal des autres. Au contraire, cette qualité d'écoute, d'entraide, cette qualité où vous vous appréciez les uns les autres, où vous prenez soin de ceux qui ont plus de difficultés, et bien ça appartient à une véritable richesse. C'est un petit peu le cas dans la famille et l'Église. La meilleure définition que Jean-Paul II en ait donnée, l'Église, c'est une famille de famille. Troisième type de lien pour comprendre ce que c'est que l'Église, le but, la finalité. À quoi ça sert la classe? Ça sert à grandir. Ça sert à devenir, à découvrir profondément toutes les virtualités que je porte en moi. Et l'Église, c'est la même chose. Ça me permet de découvrir qui je suis profondément. Je suis appelé à un mystère spirituel qui s'appelle la sainteté. Et ce mystère spirituel, il est déjà accompli. Vous avez tous des grands-parents, des arrière-grands-parents, peut-être certains de vos grands-parents qui vous ont impressionné avec une foi fabuleuse. Hier, j'étais en Dordogne et j'ai accompagné Pauline et Victor qui sont dans un lycée à Bordeaux qui s'appelle la SOC. Et j'ai donné les sacrements à leur grand-mère. Et cette grand-mère, elle leur a laissé une parole pour leur dire au revoir. Deux paroles, en fait. Elle leur a dit « Ne pleure pas ». Et la deuxième parole qu'elle leur a dit, qui était pleine d'espérance, « Je quitte un palais pour entrer dans un royaume. Je quitte un palais pour entrer dans un royaume. » Et alors là, Pauline et Victor, plus que des grandes paroles, celles que je suis en train de faire, ils ont compris ce que c'était que la vie. C'est Rosie avait une vie assez impressionnante, une femme très grand tempérament, belle figure. Et la parole qu'elle leur a laissée, ma vie, ça a été comme un palais. Mais ce palais, je le quitte aujourd'hui pour entrer dans un royaume, le royaume de Dieu. Et je peux vous dire que Pauline et Victor, malgré les pleurs, la révolte de perdre cette grand-mère qui les avait éduqués, parce qu'ils étaient orphelins de mère, ça, ils s'en souviennent. Je quitte un palais pour entrer dans un royaume. La qualité de ces liens, ça fait partie de la richesse de votre classe, ça fait partie de la qualité d'un établissement. Alors, une église sans espérance, ou une espérance, pardon, sans église, tout d'abord, eh bien, c'est la solitude. C'est la solitude parce que je suis seul. Alors, j'ai l'écriture, oui, pour m'inspirer, pour découvrir qui est Dieu, et dans cette lumière, découvrir quelque chose de ma vie. Pas de sacrement, pas de baptême, pas de bien qui me permet de grandir et de recevoir la tendresse de Dieu. Pas de prière en commun. S'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de communion. Pas de rencontre avec d'autres. Pas d'entraide. Voilà ce que ça donne. Une espérance, une religion sans église. Maintenant, non, une religion sans foi. Au fond, c'est ça qui est désigné par notre ami. Le problème, c'est l'hypocrisie qui trahit profondément cette espérance. Ces moments, on appelle ça le pharisianisme, ce moment où je dis mais je ne le vis pas. Ce moment où je me sers de la religion avec un objectif temporel, à plusieurs moments dans l'histoire, il y a eu la tentation pour un certain nombre de puissants d'utiliser l'Église pour conserver du pouvoir, accentuer une présence, une puissance sur les communautés. Le Christ se réduit à un sage. Ouais, d'accord, moi je crois que Jésus, il a dit des choses intéressantes. J'ai un professeur d'université qui m'a marqué, il disait le credo. Le credo, c'est vraiment le résumé de la foi des chrétiens. Sauf quelques mots. Mort sous Ponce Pilate. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et des ailes. D'accord. Sauf mort sous Ponce Pilate. Pourquoi ? Parce que lui, il disait, ok, moi j'adhère au christianisme, à ses valeurs, à une exception près, c'est que pour moi ça n'a pas existé. C'est des valeurs humanistes. Sous Ponce Pilate, qui est intégré, reconnaît que le Christ, il y a 2000 ans, a vécu, est mort, a donné sa vie pour chacun de nous. Ça, je le refuse, disait-il. Une religion, en réalité, très superficielle, une sorte de sagesse, ou un christianisme qui est réduit à des valeurs. À l'inverse, l'Église de la Terre, qui est unie à l'espérance, c'est une Église où des hommes et des femmes sont appelés à faire grandir la vie spirituelle. Sur Terre, eh bien, on est dans un processus laborieux où la grâce rencontre notre liberté fragile. On fait un pas vers Dieu, à l'occasion d'un décès, on se retire, on est parfois révolté contre Dieu. Il y a des obstacles sur ma vie qui m'empêchent d'aimer parfaitement Dieu, une sorte de combat. Mais l'Église sur Terre, c'est celle des hommes et des femmes qui cherchent la lumière. Ne nous étonnons pas que dans l'Église, il y ait des hommes qui défaillent, y compris des prêtres. Parce que l'Église, selon une belle formule du pape François, c'est l'Église des miséricordiés, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'être transformés par la tendresse de Dieu. Et oui, il y a des pécheurs. Et oui, il y a des hommes qui doutent. Et oui, il y a des hommes qui renient et qui trahissent. Mais comme dans cette belle parabole du fils prodigue, Dieu ne cesse sur le pas de la porte, c'est-à-dire à la frontière de notre âme et de sa présence, il ne cesse de nous appeler, de nous attendre, de nous inviter à le rejoindre. Et l'Église de la Terre, c'est ça. L'Église, elle est composée d'hommes et de femmes qui laborieusement cherchent à faire le bien, à accomplir le bien. L'Église de la Terre, c'est donc être dans cet inconfort d'être dans le monde sans être du monde. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été à la messe ce dimanche, messe du Christ roi. Et il y a cette confrontation absolument saisissante où le Christ est face à Pilate, qui va le condamner à mort. Et le Christ dit « Mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume n'est pas d'ici. » Il ne dit pas « Mon royaume n'est pas ici, mais pas d'ici. » Le problème pour nous, chrétiens, c'est que nous sommes citoyens du ciel et néanmoins en exil sur terre. Nous sommes ici, plongés dans le monde avec ses turpitudes et ses difficultés. Nous n'échappons pas, qu'on soit chrétien, qu'on soit prêtre, qu'on soit évêque, aux difficultés du monde. Nous sommes plongés, mais notre citoyenneté, notre patrie, notre famille, c'est celle du ciel. Et c'est cette Église glorieuse qui me donne en définitive à comprendre ce que c'est que cette communion qu'on appelle l'Église. À l'heure où le Christ apparaîtra, quand se réalisera la glorieuse résurrection des morts, la clarté de Dieu illuminera la cité céleste, l'agneau sera son flambeau. Pour nous, l'Église, c'est celle du ciel. Un jour, nous verrons, pour les chrétiens, Dieu face à face, si nous l'acceptons, si nous y sommes disposés, si nous acceptons sa miséricorde. Et tous les désirs inassouvis, je prépare pas mal de fiancés au baptême, au mariage. Alors, ce qui est impressionnant, la préparation au mariage, c'est que vous avez cet amour extrêmement fort, magnifique, et puis vous sentez à un moment ou à un autre, un prêtre normalement qui accompagne les fiancés, rencontre une, deux, trois, quatre, cinq, dans certains cas, moi j'aime bien les rencontrer une dizaine de fois. Vous voyez qu'il y a un petit problème, qu'il y a quelque chose dans la vie, dans le cœur d'elle ou de lui qui est inassouvi, alors même qu'on pourrait dire, voilà, ma vie elle est accomplie, j'ai trouvé celui avec qui j'ai fondé ma vie, quelque chose qui reste à conquérir. Eh bien, dans notre vie, quelle que soit la grandeur et la beauté du mariage, de l'amour humain, et je vous souhaite tous de trouver un jour, dans toute sa profondeur, sa grandeur, sa plénitude, un amour de cœur à cœur. On voit parfois, vous l'avez peut-être, ce témoignage de grands-parents, donc vous voyez qu'ils s'aiment avec une tendresse tellement forte qu'ils n'ont même plus besoin de parler. Il y a cette complicité. Eh bien, il y a quelque chose d'inaccompli dans le cœur de l'homme qui n'est comblé que par l'infini. Il y a dans le cœur de l'homme quelque chose qui n'est comblé que par celui qui est la source même de l'âme humaine, et ça s'appelle pour nous le ciel. L'Église du ciel, donc, là où est le Christ, là est l'Église. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent bien, que celui qui entend dise bien, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Ces paroles, peut-être que vous ne les avez jamais lues. Eh bien, c'est les dernières paroles de l'Écriture. Dans le dernier livre de l'Écriture, dans le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle Apocalypse. Apocalypse, ça ne veut pas dire cataclysme, ça veut dire révélation. Et les paroles que vous avez vues, c'est les toutes dernières paroles que nous avons dans l'Écriture. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Dieu et l'humanité s'invitent réciproquement. Celui qui entend dise « Viens », que l'homme assoiffé, celui qui reconnaît, qui découvre que dans son cœur il y a quelque chose d'inassouvi. Et le chrétien, c'est cela. Et celui qui s'approche de la foi chrétienne et qui est catéchumène, c'est lui. Découvrant qu'il y a quelque chose dans son cœur, un désir infini qui pourtant n'est accompli par rien qui existe visiblement dans le monde, que cet homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. L'Église, elle est donc comme une cité. Toujours l'Apocalypse. Je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendit du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. C'est l'Église dont nous parlons. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs il y a de faute, de cris et de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Chers amis, on est monté jusqu'aux étoiles, là. C'est plus seulement une vision satellitaire, notre montgolfière qui contemple les vicissitudes de l'Église sur Terre. Là, ce que nous voyons dans ces paroles, ce que nous touchons, eh bien, c'est le projet de Dieu. C'est ce que Dieu veut réaliser dans l'Église, une Jérusalem nouvelle, qui, laborieusement, certes, mais au long de l'aventure spirituelle de chacun d'entre nous, se prépare à un mystère d'épousailles de telle manière que tout ce qu'il y a de larmes dans notre vie, tout ce qu'il y a de mort dans notre existence, sera transfiguré. Et la vie, elle est faite pour le ciel, pour un chrétien. Il n'y a pas de compréhension possible de l'Église si on saisit que c'est dans cette lumière du ciel que nous devons la contempler et la regarder. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses en haut. Là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors que vous aussi, vous serez manifestés avec lui, plein de gloire. J'avance vite parce que vous êtes en train de vous endormir. Concitoyens du ciel, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des autres, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Quand je serai allé, que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai. Je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous voyez. La parole me rappelle un catéchumène qui s'appelle Guillaume. J'ai encore revu lundi. Guillaume, il a toujours dans son enfance une insatisfaction. Et il s'est mis en route par lui-même, autodidacte. Il a commencé à lire le Coran, les récits de la sagesse bouddhiste, il a fait un petit tour en Inde, tout sauf les chrétiens. Ah non, les chrétiens, l'Église, hein, tout ça c'est périmé, il suffit de voir la manière dont les médias parlent de l'Église, comme on dit en allemand, parce que je suis aussi d'origine allemande, altmodisch. on n'en parle plus. Et il a continué son chemin, jusqu'à un jour où son cœur, qui était déjà très ouvert, puisqu'il voulait vraiment aider les autres, il accompagne, sans trop savoir pourquoi, un handicapé qui lui demande d'aller à Lourdes. Et c'est cet handicapé, apparemment mis à l'écart de la société, quelqu'un qui est méprisé selon des critères humains, qui lui a dit « Écoute Guillaume, moi j'ai envie d'aller aux piscines. À Lourdes, vous avez un lieu assez magique, si vous allez à Lourdes, ça s'appelle les piscines. » Parce que Bernadette, et normalement, il doit vous être proche, parce que Bernadette, elle avait votre âge. La Vierge Marie lui a indiqué que ceux qui venaient à Lourdes avaient à vivre un rite de purification qui avait des piscines. Bref, je passe rapidement. Ce petit handicapé, il supplie Guillaume, je vais aller aux piscines. Et Guillaume, évidemment, est obligé d'aller aux piscines, mais il ne voulait pas. Donc, par tendresse et amour et amitié pour cet handicapé, il l'accompagne. Et aux piscines, on se plonge dans l'eau, petit handicapé, les yeux brillants, il dit « Viens aux piscines avec moi, il faut que tu t'ailles te baigner aussi. » Lui, pas chrétien, ayant absolument pas envie de tomber dans cette dévotion mariale auquel il ne croit pas, refuse. Et le petit handicapé continue d'insister. À ce moment-là, Guillaume seul. Il plonge dans la piscine, et il en ressort complètement différent. Il s'est passé quelque chose dans cette piscine. Grâce à cet handicapé qu'il a amené jusque-là, Guillaume a découvert la présence de Dieu dans sa vie. Et lorsqu'il est sorti de cette piscine, il a décidé de devenir chrétien. Je l'ai accompagné pendant environ 2 ans, un des gros problèmes qu'il avait, c'est par rapport à un mari, et progressivement, son cœur s'est ouvert. Je l'ai baptisé l'année dernière, Guillaume. Et je vous raconte juste ce qui s'est passé lundi dernier. Lundi dernier, il amène un homme à ce groupe de catéchumènes. Cet homme, bon, je n'ai pas très bien remarqué parce qu'ils sont assez nombreux, s'assit derrière, au fond, et puis Guillaume donne un témoignage devant tous les garçons et filles qui demandent le baptême. Et puis à la fin de ce témoignage, cet homme se lève. Et Guillaume m'explique après qu'en fait c'est la première fois qu'il prend la parole en public. Et cet homme dit « Je suis le père de Guillaume et je suis fier de mon fils. Et maintenant je demande à mon tour le baptême parce que ce chemin que Guillaume a fait, je découvre que c'est ce à quoi moi j'aspirais de tout mon cœur. » Et donc son père lui-même demande le baptême. Découvrir comment, quelle que soit notre grâce spirituelle, notre chemin, nous sommes tous porteurs. Ceux qui m'ont entendu, je sais pas s'il y a des premières sur la vocation, nous sommes tous porteurs d'un véritable trésor. Et ce trésor, si on accepte de le vivre jusqu'au bout, avec audace, de découvrir que cette aventure spirituelle, elle trace un chemin de lumière, à ce moment-là, ceux qui vous connaissent, ceux qui vous entourent, sont profondément touchés parce que vous accomplissez quelque chose qui n'est plus seulement pour vous, mais qui est également pour eux. L'Église, c'est un peuple qui appartient à l'Église. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car Dieu est unique. Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même qui s'est livré en rançon pour tous. Dieu veut le salut de tous les hommes. Un gros débat qui a traversé l'histoire de la théologie, est-ce qu'on peut être sauvé alors qu'on n'est pas baptisé? Et pour les parents, c'était vraiment cruel, surtout lorsque les enfants mouraient en bas âge. Les parents étaient dans l'inquiétude, l'angoisse très forte, que leur petit bébé qui mourait très peu de temps après la naissance n'ait pas profité du salut, parce qu'il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Dieu veut le salut de tous les hommes, sans exception. Le baptême nous donne quelque chose de la plénitude de la tendresse de Dieu. Et les théologiens se sont reposés cette question en Vatican II en disant « Dieu veut le salut de tous les hommes et il peut donner ce salut à des hommes de bonne volonté par des moyens que lui seul connaît, même des personnes qui ne sont pas baptisées. » Même des personnes qui ne sont pas baptisées. À la fois le baptême est très important pour nous chrétiens parce qu'il nous donne la plénitude de la présence de Dieu, mais Dieu veut le salut de tous les hommes. Il n'y a pas d'un côté les gentils, de l'autre côté, les méchants. Ceux qui sont damnés éternellement, et ceux qui ont la chance d'être dans une famille chrétienne, où il y a eu beaucoup de prières, et qui, eux, sont sauvés. Dieu veut le salut de tous les hommes. Et jusqu'à la fin de notre vie, il frappe à la porte. Il y a cette belle petite anecdote. À partir de lundi, je suis à Ars, parce que je donne des cours au séminaire d'Ars, où on raconte cette petite histoire. On vient trouver le curé d'Ars, un saint qui a beaucoup marqué le 19e, et on lui parle de cet homme qui s'est jeté au-dessus d'un pont, qui s'est suicidé, on conclura, c'est vraiment tellement dommage, il est certainement damné. Et le curé d'Ars dit, non, vous ne pouvez pas dire ça. Et lui, dans son cœur, il a l'intuition que cet homme, en réalité, dans ce désespoir qui marquait sa vie, où tout semblait obscur, entre le moment où il s'est jeté et le moment où il est mort, il a rencontré le Christ. Tous les hommes ont à un moment ou un autre la possibilité de rencontrer le Christ. Qu'on soit chrétien ou pas. C'est ce que dit ce texte, 1 Timothée. Dieu est unique, unique aussi le médiateur. Je suis la porte, dit Jésus. Il n'y a qu'une seule porte pour entrer en communion avec Dieu. Le moment où nous rencontrons le Christ, ça peut être comme enfant. Moi, j'ai rencontré le Christ à l'âge de 12 ans, dans une nuit de Noël. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que ça m'a tellement bouleversé. J'ai complètement oublié la nuit de Noël, les cadeaux, etc. J'étais sur un petit nuage pendant 3 jours. Là, nous n'avons pas compris ce qui se passait. Ils l'ont compris bien, bien après, parce que j'ai gardé ça, ce secret dans mon cœur jusqu'à 18 ans. Eh bien, ça peut être au moment de l'enfance, ça peut être quand vous êtes jeune adulte, ça peut être au terme de votre vie. Mais tous, à un moment ou à un autre, et c'est cela qui fait que nous approchons, nous entrons en communion avec le mystère de cette Église, j'habiterai au milieu de Dieu, j'y marcherai, j'y serai leur Dieu, ils seront mon peuple. L'Église, c'est ce peuple qui marche. Et alors, nous découvrons que nous formons quelque chose d'un corps. De même que notre corps, en son unité, possède plus d'un membre, que ses membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part, membres les uns des autres. Chacun d'entre nous, nous avons notre partie à jouer, mais tous, nous sommes vitalisés par une même vie. De même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Tous, nous participons à un même esprit. Lorsque, après le baptême, disons que nous devenons enfants de Dieu, un enfant, c'est celui qui reçoit sa vie de son père et de sa mère. Dire que nous sommes fils de Dieu pour les chrétiens, ça veut dire que nous vivons de la vie même de Dieu. Bien sûr, nous sommes créatures, limitées, finies. Mais le propre de la vie spirituelle, le baptême, ce qui fait donc que nous entrons dans une communion que nous appelons l'Église, c'est que nous participons à la vie même de Dieu, du Père qui se donne au Fils, du Fils qui se tourne vers le Père, et de ce don réciproque jaillit l'Esprit Saint. La grâce, la vie spirituelle, c'est rien d'autre que d'accepter que en toi je ferai ma demeure, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent dans notre âme pour nous donner la propre vie de Dieu. C'est ce que nous appelons la grâce. Et le propre, donc, de cette incorporation, faire partie du corps de Christ, c'est être vitalisé par cette vie même de Dieu. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe premier d'entre les morts, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude. En arché, en o logos, pour ceux qui font du grec. Le prologue de saint Jean, dans le principe était le Verbe. C'est le Christ qui nous révèle cette voie de salut. C'est le Christ, lorsque nous approchons de lui, qui nous voit de la tendresse de Dieu. C'est le Christ qui donne pour nous, chrétiens, le sens de l'extraordinaire ambition de Dieu, qui est de devenir ses enfants bien-aimés, vitalisés par sa vie. Alors, je conclue. Pour vous, je passe tout cela, je vais juste arriver à ma conclusion. En définitive, qu'est-ce que c'est que l'Église? À quoi ça sert? Eh bien, l'Église, c'est d'abord... Toc, 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 voilà, je passe, je vais vous parler du mariage. L'Église, c'est d'abord un visage. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son regard et t'accorde sa grâce, que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Le visage, quand vous aimez quelqu'un, c'est ce qui compte le plus. Et ce qui compte le plus, c'est qu'il ou elle vous sourit. Eh bien, découvrir, au-delà des traits fatigués, des rides de cette église qui peut vous sembler être très âgée et très vieille, c'est découvrir le sourire de Dieu. Le sourire, il y a quelque chose de très particulier. Il permet que les regards se croisent. Il permet de découvrir la tendresse de quelqu'un. Je ne sais pas si le nom de Mère Teresa vous dit quelque chose. Si vous avez en tête le visage complètement ridé de Mère Teresa, le regard de Mère Teresa était extraordinaire. Un visage à faire peur, honnêtement, pas bon, très bien. Et pourtant, avec une lumière, un sourire, un regard absolument éblouissant. De cette femme qui, à la fin de sa vie, son médecin lui dit, écoutez, c'est simple, si vous n'arrêtez pas, le cœur est trop fragile, vous allez mourir dans les semaines qui suivent. Elle répond, je continue. Effectivement, elle mourra, quelques mois plus tard. Jusqu'au bout, elle donne sa vie. Découvrir l'Église, c'est découvrir son visage. L'Église, je reste là parce que ça, l'Église, c'est également quelque chose des oreilles et de l'écoute. L'écoute, c'est super difficile. Ça, vous apprendrez ça. C'est pas entendre. Il y a une différence entre l'écoute, écouter et entendre. Quand vous écoutez, grand silence, alors là, il y a de l'écoute. Là, il y a quelque chose qui est ouvert de notre cœur et de notre intelligence, quelque chose qui est suspendu. Et là, il y a l'écoute. L'écoute, vous êtes présent pas seulement intellectuellement, mais vous accueillez face à face, profondément. Vous rejoignez quelque chose du mystère que la personne est en train de vous transmettre. Ça peut être la personne elle-même, ça peut être son amour, ça peut être ce que j'essaye de faire, que Jésus m'aide un peu. Une présence spirituelle du Christ. Et pour écouter, eh bien, il faut accepter d'être véritablement bénéficiaire d'une parole qui me met comme en attente. Et si à chaque instant nous bavardons, nous plaisantons, nous envoyons, je ne sais pas très bien ce que vous utilisez, WhatsApp, Snapchat, etc., des tas de trucs, le problème, c'est qu'on ne peut pas écouter sans silence. Faire silence. Écouter au fond de soi-même. Aller à l'intime de soi-même et accepter cette solitude radicale que je vis quand je suis avec moi. C'est pas simple. Parce qu'il y a des trucs que je ne me pardonne pas et puis je me trouve nul. Faire silence pour rejoindre à l'intérieur de moi-même cette présence silencieuse de ce Dieu qui me crée ici et maintenant et qui veut me révéler son visage. C'est également être parole. Quand je baptise un enfant, je dis juste après l'avoir baptisé, tu es prêtre, tu es prophète et tu es roi. Tu es prophète parce que tu as entendu et tu dois entendre la parole de Dieu pour toi-même la proclamer. Tu es prêtre parce que désormais, par le baptême, tu es intermédiaire entre le ciel et la terre. Et tu es roi. Si vous êtes baptisés, vous êtes tous des rois. En tout cas, même ceux qui ne sont pas baptisés, notre vocation, c'est d'être quelque chose de royal, participant de la vie de Dieu. C'est-à-dire, le roi, ce n'est pas celui qui est au-dessus, c'est celui qui sert. C'est celui qui fait grandir. C'est celui qui éveille. C'est celui qui est le témoin de la tendresse de Dieu. En définitive, Jésus aimait beaucoup, lorsqu'il rencontrait des gens, on le voit bien, il ouvre les bras, il touche le corps des malades, il prend de la boue pour celui qui est aveugle, il touche les lépreux, il touche même les morts, ce qui, au niveau du judaïsme, est absolument insupportable, parce que toucher un mort, c'est être impur. Pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Eh bien, le mystère de l'Église, c'est d'être ce toucher des âmes. et ce toucher concret. Quand j'ai commencé l'enseignement catholique à Paris, il y avait un grand débat d'un quartier, d'un arrondissement de Paris. Et c'était le drame. Parce que non, quand même, monsieur le curé, vous n'allez pas ouvrir un foyer de sidéens à cet endroit-là. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas correct. L'Église, c'est le toucher des pauvretés les plus grandes. Voilà ce que c'est que l'Église. Vous voyez que si l'Église, on peut avoir un regard extérieur très agressif, en réalité, il y a une réalité, il y a un mystère spirituel. Et si vous traversez ce brouillard de tout ce que les médias vous disent sur l'Église, et que vous allez sur le terrain, que vous allez à Bordeaux, la Maison de Marie, que vous allez dans des lieux où il y a ces dimensions caritatives, et bien vous découvrirez que l'Église est tout autre que ce que vous disent les médias. Alors, chers amis, j'arrête. J'ai pris exactement mon temps de parole. Et je vous laisse. J'ai complètement débordé d'ailleurs ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Je termine quand même sur notre cher ami, de la petite vidéo initiale. Après, il s'est corrigé. Il a dit : mais non, je suis pas contre l'Église. Je suis contre les chrétiens qui n'accueillent pas la plénitude de l'Église. Je simplifie, mais c'est ça qu'il dit. Je laisserai sur YouTube. Et donc cette opposition qu'on fait entre l'Église et la religion, ou la religion et le Christ, eh bien que chacun d'entre nous, nous puissions découvrir que c'est à nous de faire la vérité, d'être en vérité, et que cette quête, eh bien, on a tous à l'accomplir, et à ce moment-là, véritablement, nous faisons partie de ce corps du Christ. Merci beaucoup de votre attention.